je reprends le sujet de la famille et de l'amour humain à cause des enregistrements de mauvaise qualité interrompus par différentes choses. Donc dans la Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme le même jour et à son image. Le premier récit de la création de l'homme et de la femme situe l'homme et la femme sur un pied d'égalité. Au chapitre 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, Dieu créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Donc, ce que nous voyons, nous lisons au chapitre 2, lorsque Dieu a endormi l'homme, au chapitre 2, verset 21, « L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, prit de ses côtes et referma la chair à sa place. » L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qui avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Ici, c'est on appelle ça un texte ornemental, descriptif, de la relation entre l'homme et la femme qui ont été créés le premier jour. Ça situe la femme dans la dépendance de l'homme, mais la côte n'est pas une côtelette. La côte est zéla en hébreu, c'est son intimité, son intériorité. Donc, il y a quelque chose d'intime et de profond, propre à l'homme et à la femme, dont Dieu est l'auteur. Ensuite, il y a un mystère. Une part de la connaissance de l'homme est limitée à propos de la femme, de manière à ce qu'il ait le désir de la connaître. C'est le principe même, les fondements de la sexualité, le désir de connaître l'autre, qui normalement doit rester là toute la vie, dans le cœur de l'homme et même de la femme. On voit au verset 22, chapitre 2, verset 22, que c'est Dieu qui amena la femme vers l'homme. Ensuite, au verset 23, voici cette fois celle qui est haut de mes os, chair de ma chair, donc elle est humaine, au même sens que l'humain, que Adam. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. La rupture avec les parents, l'autonomie du couple, et l'unicité du couple, l'intégrité du couple à respecter par les parents, par la famille, par le clan, par la société, évidemment. Beaucoup de choses sont comprises dans toute cette affirmation. Dans cette affirmation, il est évident que si Dieu unit, l'homme ne peut pas diviser. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 verset 32 et chapitre 19 verset 3 à 15. Aucun motif n'est valable pour séparer l'homme et la femme, sauf le cas de pornéa en grec, d'infidélité en français. Ce mot veut dire infidélité au sens sexuel, affectif, mais aussi sortie de la foi. Rupture au niveau de la foi, au niveau moral, éthique. De la femme vis-à-vis de l'homme, et bien sûr, dans le sens inverse aussi. Dans ce cas-là, la séparation est compréhensible, et Jésus l'accepte. Dans Luc et Marc, on ne trouve pas cette clause qui permet la séparation. Vous pouvez lire dans Marc chapitre 10, versets 2 à 18, vous verrez qu'il n'y a pas, sauf en cas d'infidélité, ça n'existe pas. Il est évident que pour Paul, l'homme et la femme, même s'ils n'ont pas la même foi, même s'il y a un écart au niveau de la foi dans le temps, il est évident que pour Paul, il vaudrait mieux rester ensemble, pour la bonne raison que celui qui est croyant peut sanctifier l'autre, c'est-à-dire l'amener à Christ. Et ce n'est pas forcément toujours une réussite. Mais c'est possible. En plus, s'il y a des enfants, Paul dit que ce serait bien que les enfants soient sanctifiés. Donc il souhaite, mais il le signale bien que ce n'est pas le Seigneur, c'est lui. Il souhaite qu'on reste ensemble. Son souci chez Paul, c'est l'évangélisation. Mais en matière de droit au sens biblique, c'est la parole de Jésus qui compte. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39, « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur, donc avec un croyant. Et bien sûr, l'inverse est vrai aussi. Si un mari est veuf, il se marie avec une chrétienne. Quels sont les principes de vie entre l'homme et la femme? Tout cela est bien sûr expliqué clairement dans Éphésiens, chapitre 5. Chapitre 5, verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Donc c'est une soumission spirituelle, c'est pas une soumission au sens de l'esclavage. « Le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. » Donc il y a un respect du mari à cause de Christ qui est au-dessus du mari. Par égard à Christ, le mari est respecté et aimé. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maintenant, regardons concernant chapitre 5, verset 25, le mari. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Nous voyons donc que Christ a donné sa vie pour l'Église, a prié souvent dans la montagne et a prodigué énormément de soins et de conseils. Et c'est lui qui a fondé l'Église. Donc, en ce sens, le mari a une lourde responsabilité vis-à-vis de son épouse et un engagement très profond. Et nous voyons que ce n'est pas simplement symbolique. Regardons du verset 29 au verset 33. « Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. » Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, une seule humanité. Ce mystère est grand, donc mystère, mysterion, c'est réalité divine en cours de dévoilement, au fur et à mesure du don de la foi. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc l'homme et la femme connaissent une réalité d'amour, telle que Christ et l'Église en connaissent une. C'est un parallélisme, une analogie extrêmement sérieuse qui montre que l'engagement de l'homme et la femme est aussi important quasiment que l'engagement de Christ vis-à-vis de la rédemption et la sanctification de l'Église. C'est donc une relation sacrée qui est fondée dans le mariage, dans lequel Dieu va dévoiler tout son plan, toute sa richesse, sa sagesse, sa sainteté. Quand Moïse, au chapitre 24 de Deutéronome, versets 1 et 2, permet la répudiation, Jésus en dira, dans Matthieu 5, versets 32, en 19, 3 à 15, il en dira que c'est à cause de la dureté des hommes, de votre dur endurcissement de cœur, que Moïse a permis fait cette règle de la répudiation. On peut voir que Moïse lui-même est tombé dans la répudiation. Il s'est donné des droits qu'il n'avait pas. Nombre, chapitre 12, verset 1, il a choisi une femme éthiopienne et il a répudié Séphora. Dans Malachie, chapitre 2, verset 16, nous voyons que l'Éternel haït la répudiation. Et il est bien évident que nous n'avons pas toutes les libertés de faire ce que nous voulons à partir du moment où nous avons pris un engagement dans le mariage. C'est un engagement solennel, un engagement qui est pris envers un conjoint et aussi envers Dieu, qui mérite vraiment une longue préparation, une longue maturation. Dans Romains chapitre 7, versets 2 à 3, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, vous aussi, dans verset 4, indique bien qu'il y a une relation entre la mort de Christ, l'abolition de la loi, pour une loi supérieure, la loi du Saint-Esprit. Et la loi du Saint-Esprit, c'est la vie dans le Saint-Esprit qui permet de porter des fruits pour Dieu. Des fruits de fidélité, d'amour. Et verset 5, « Lorsque nous étions dans la chair, donc dans l'humain, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » La répudiation, le divorce sont des fruits pour la mort. Et ils sont provoqués par une loi agissante dans nos membres, c'est-à-dire, plus il y a un règlement qui nous interdit l'adultère, la convoitise, la répudiation, plus l'homme le fait. Évidemment, il faut une transformation profonde de l'homme, il faut qu'il soit crucifié en Christ pour qu'il évite à ce stratagème du péché. Dans Romains chapitre 7, verset 8, « Le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. » Donc nous voyons bien que le règlement et toutes les grandes promesses au jour du mariage et les lois développent en nous une hostilité à la loi, développent en nous un désir de transgression qui vient d'Adam et Ève, bien sûr. Et on peut comprendre aujourd'hui qu'il y a énormément de gens qui transgressent leurs promesses et qui se séparent. Parce que c'est inhérent à la nature du péché que de se rebeller contre la promesse, contre le serment fait, contre la loi de la fidélité. Romains 7, verset 11, « Le péché saisissant l'occasion, mais séduisit par le commandement et par l'homme me fit mourir. La loi est donc sainte, le commandement est saint, et juste et bon. » Alors un peu plus loin, dans Romains chapitre 7, verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, donc Sarx, l'humain, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Voilà, nous comprenons bien d'où vient cette propension au divorce, à l'adultère, à la convoitise, au regard, à l'âme, à la main qui se détourne et qui veut convoiter le corps des autres. La Bible est très claire sur tous ces sujets. Jésus a l'autorité de mourir sur la croix pour nous et de prendre notre péché. Si nous l'acceptons, notre péché est crucifié et il nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de faire en nous une œuvre merveilleuse. C'est d'abord de pouvoir reconnaître ce qui est bien et mal, d'avoir une saine vision des choses telles que Dieu l'a. Et la deuxième chose, d'avoir le pouvoir, la capacité de faire le bien, d'y rester fidèle. Ça, c'est la transformation due au Saint-Esprit, au don du Saint-Esprit. Ainsi, on peut trouver dans les disciples de Jésus, comme Marie de Magdala et tant d'autres, une grande fidélité, un grand retournement vers Dieu. Et on comprend que Jésus dit à la femme adultère, « Va et ne pêche plus ». Pourquoi ? Parce que après sa mort et sa résurrection, il était capable de lui donner la puissance du véritable amour. De même, la femme samaritaine, il pouvait donner cette authenticité que l'homme a perdue depuis Adam et Ève. Dans Jean chapitre 8, versets 3 à 12, on voit que Jésus dit que « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Dans Jean chapitre 12, 1 à 3, « Celui qui croit en moi est affranchi du péché. » Donc l'homme et la femme ont une capacité en Christ de rester fidèles et de s'aimer pour l'éternité. Mais sans Christ et sans le don du Saint-Esprit, l'homme, dans son cœur, souhaite un amour fidèle et plaigné, et à cause de son péché, vit la rupture. Comme il vit la rupture avec Dieu, il vit la rupture avec le conjoint. Et nous n'avons pas de solution sans le Saint-Esprit, sans la croix qui donne le Saint-Esprit au nom de Jésus. Voilà, donc en résumé, ce qu'il faut penser et savoir de la famille, de l'amour humain. Maintenant, si nous prenons Adam et Ève, nous voyons dans Genèse chapitre 4 que Adam et Ève sont rapidement divisés après avoir prononcé un engagement avec Satan, un engagement pour le péché, un engagement pour l'autonomie, une vie sans Dieu, une autonomie plénière, où ils réclament une pleine sagesse, une pleine autorité, le droit de définir le bien et le mal, en se passant totalement de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que nous voyons que tout de suite, la culpabilité envers Dieu et la fuite à l'égard de Dieu apparaissent. Genèse chapitre 3, verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, donc privés de gloire, privés de bonnes relations avec Dieu. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. » Donc, en se donnant de la contenance, en faisant des bonnes œuvres, en essayant, en faisant des efforts, etc., en essayant de se donner une apparente sainteté, une apparente éthique, tout à fait aléatoire et provisoire, ils connaissent le manque, ils connaissent la frustration et la culpabilité. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face éternelle au milieu des arbres du jardin. L'éloignement à l'égard de Dieu a commencé ce jour-là. Il n'est donc pas étonnant qu'aujourd'hui, on entretienne systématiquement l'éloignement comme une attitude apparemment positive, apparemment d'autonomie, apparemment d'épanouissement, alors qu'elle ne l'est pas. Dieu dit « Où es-tu ?» au verset 9. Et l'homme répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » La crainte de Dieu et la rupture avec Dieu. Lorsque l'Éternel pose la question « Qui t'a appris que tu étais nu, que tu étais sans gloire et que tu avais perdu sagesse, sainteté et gloire ?» Eh bien, Adam accuse sa femme. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. » Voilà, l'accusation et la division, trait du péché, victoire de Satan, bien sûr, et ce ne sont plus les fruits de la sainteté, ce ne sont plus les fruits de Dieu. L'homme reste de toute façon encore créé à l'image de Dieu, mais une incapacité de répondre à cette image est venue s'installer en lui. La femme, bien sûr, elle, à son tour, va accuser le serpent que Dieu a créé. Donc, le principe de se chercher un bouc émissaire, de trouver quelqu'un à accuser et de fuir ses responsabilités, est arrivé sur la terre. L'irresponsabilité et l'accusation. C'est un phénomène qui est assez difficile à supporter chez l'homme. Ça engendre chez lui le mal-être et l'angoisse, mais c'est un principe de base venu du péché. Au chapitre 4, nous voyons qu'Adam connut Ève, donc relation sexuelle, affective, ça, nous espérons, c'est pas forcément vrai. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Donc nous voyons que Madame Ève s'accapare le fils. Elle n'a pas dit « Nous avons reçu un enfant de la part de Dieu. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Combien de gens aujourd'hui disent « J'ai fait un enfant. » Il est magnifique, n'est-ce pas? Alors, cette relation conflictuelle entre l'homme et la femme, où l'un des deux s'accapare l'enfant, va provoquer des comportements agressifs, des comportements déséquilibrés chez le fils. Il s'agit de Caïn qui va un jour tuer son frère Abel. Et lorsque Dieu vient visiter Caïn et Abel, chapitre 4, verset 9, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Nous voyons ici que l'amour du prochain est disparu, et la haine, l'insolence, l'arrogance, le principe de la guerre entre les humains est là, et le principe de l'injustice aussi. Lorsque nous voyons le cas de Lémec, chapitre 4, verset 3, Lémec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure. Il a donc deux femmes, alors que Dieu n'a jamais demandé qu'on ait deux femmes, et il a commis un ou plusieurs meurtres. Nous voyons donc que la souillure sexuelle engendre aussi l'endurcissement, parfois la haine, parfois le meurtre, la violence. C'est ainsi dans l'œuvre du péché, tout est en rebond, en cascade, et amène la situation d'aujourd'hui sur cette terre. Pour Abraham, nous avons bien sûr beaucoup de choses à dire. Nous allons d'abord voir Noé. Au chapitre 6, quand Noé apparaît, c'est parce que la situation sur la terre est totalement détériorée. Les, chapitre 6, verset 1, les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre. Donc, reproduction sexuelle, affectif, on n'en sait rien. Probablement dans un certain nombre de cas. Et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc les fils de Dieu, ici il s'agit de démons, d'esprits révoltés, d'anges révoltés, qui habitent le corps, le psychisme d'êtres humains, d'hommes, pour s'accaparer charnellement des femmes. Une puissance sexuelle d'accaparement, sans aucun amour, sans aucun respect. De ces relations abusives naissent des hommes forts, des hommes, des conquérants, et des hommes agressifs qui amèneront de grands carnages sur la terre. Chapitre 6, verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu, les démons, furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Voilà, nous avons affaire à l'apparition des grands leaders politiques, des grands leaders guerriers, et la Bible nous montre que c'est dû à des unions charnelles et en même temps diaboliques. Au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors l'Éternel se repentit. Décision du déluge. Tout de même, un homme trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 8. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Sa voix, c'est-à-dire sa vocation à la sainteté, à l'intégrité. Et forcément, l'obéissance à Dieu. Et au respect du prochain. Et donc, la décision de Dieu d'envoyer une sanction générale, sauf sur Noé et sa famille, cette décision va être prise. Et pendant 100 ans, Noé va avertir les hommes qui vont se moquer, qui ne vont pas croire que Dieu est capable de se fâcher et de sanctionner. Alors, Noé aura bien sûr le bénéfice de la grâce, il sera sauvé du déluge. Et après ce déluge, Noé va connaître quelques détriments, c'est-à-dire qu'il va planter des vignes et qu'il va boire et qu'il va se comporter de manière impudique. Genèse chapitre 9, verset 20, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, il se moque du physique de son père, il souille son père de moquerie, d'un regard abusif. Parfois, dans certaines interprétations de ce texte, ça va plus loin, qu'il y aurait eu des attouchements, etc., avec le père, mais Toujours est-il que la souillure sexuelle est venue. Et une leçon à tirer de cela, c'est que la sexualité, bien gérée, ne fonctionne pas avec l'alcool et avec la drogue. Il faut avoir un esprit sain, une affection claire pour avoir des relations sexuelles, avoir un comportement normal qui corresponde aux normes de Dieu, c'est-à-dire amour, respect, consécration à l'autre, service de l'autre, fidélité et procréation. Alors, voyons ce que fit Moïse. Moïse fut béni, il quitta la région de Our en Chaldée, donc dans le sud de l'Irak, une région polythéiste, souillée par toutes sortes de sacrifices humains, par l'astrologie, par toutes sortes de conceptions manichéennes. Les hommes se battent sur terre parce que les dieux dans les cieux se battent. Et donc c'est irréductible, c'est une fatalité. Et au contraire, pour Abraham, il y a un seul Dieu qui aime l'homme. Et si l'homme produit de la méchanceté, c'est pas à cause de Dieu, c'est à cause d'un péché, c'est à cause de sa vanité, de son orgueil, et qui remonte à Adam et Ève. Mais chez Abraham, il y a une grande capacité à demander pardon à Dieu, une immense grâce, et c'est ainsi que Dieu pardonne le péché. Et ça, c'est la grande affirmation d'Abraham. Au chapitre 15, verset 6, Abraham eut confiance, eut foi en l'Éternel, qui le lui imputa à justice, c'est-à-dire lui pardonna son péché, le déclara juste. Non pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais parce que, à cause de sa foi. Donc, Genèse 15, verset 6, est un verset extrêmement important. Mais que se passe-t-il donc dans la vie d'Abraham? Si nous regardons dans le chapitre 12, Abraham vit bien sûr avec Sarah, mais il va commettre certains écarts. Par exemple, il y a une famine, et à cause de ça, il descend en Égypte et demande à sa femme de le présenter comme son frère. Il a peur d'être tué si il est le mari de Sarah. Et Sarah est emmenée auprès de Pharaon pour devenir sa concubine. Au verset 15, chapitre 12, verset 15, les grands pharaons la virent aussi, la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. De là, d'énormes cadeaux faits à Abraham, et tout d'un coup, Dieu sanctionne. Au verset 17, l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, sujet de Sarah, femme d'Abraham. Et donc, Pharaon se rend compte que Abraham est le mari, non pas le frère. Et en fait, il reproche à Abraham. Abraham avoue qu'il avait peur et qu'il a péché par opportunité. Nous voyons que la fidélité d'Abraham à Sarah est quand même bien fragile. Et que l'homme tient à sauvegarder sa vie à n'importe quel prix. Sa sécurité. Et dans nos sociétés, et depuis longtemps déjà, combien de maris parfois prostituent leurs femmes pour avoir à manger, ou leurs filles. Nous voyons bien que ça remonte au départ de l'humanité. Regardons le chapitre 14, versets 1 à 16. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, donc c'est le sud de l'Irak, Arjok, roi des Lazars, de Kedorlomer, roi des Lames, Tidéal, roi de Gojim, donc ce sont des régions d'Iran, de Syrie. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, etc. Donc à tous des principautés, des petites royautés qui se trouvent dans la vallée du Jourdain. La mer Morte à cette époque-là était le tiers de ce qu'elle est aujourd'hui, et il y avait des villes prospères, riches, toute une civilisation qui faisait l'objet de la convoitise des maîtres de l'Orient. Et comme aujourd'hui encore, l'Orient débarque pour envahir ces pays, ces régions. Abraham va vaincre ses rois et il va libérer tous les esclaves, toutes les personnes qui ont été faites prisonnières, hommes et femmes, enfants. Et il va revenir à son point de départ dans le désert de Judée. Le roi de Sodome va lui proposer tous les biens. Il veut les êtres humains, parce que dans le pays de la sodomie, ce sont les corps qui comptent avant tout, pour en faire un peu leur objet, l'objet des passions diaboliques. Et pour Abraham, il ne veut aucun cadeau de la part de ce roi qui est souillé dans le péché, dans les abominations. Il est béni par Melchisédek, le roi de sainteté, qui est Christ. Comme faire Hébreux chapitre 7, 1 à 7. Donc on voit que le roi de Sodome, omnubilé par le sexe, par la sodomie, par tous les abus d'ordre sexuel, n'a même pas été corrigé suite aux événements qu'il avait vécus. En face de lui, on voit qu'il y a Abraham qui, lui, refuse tout accaparement d'être humain pour les mêmes fins. Prenons Genèse chapitre 16, versets 1 à 16. Sarah ne sait pas avoir d'enfant, elle est la femme légitime d'Abraham, elle a une servante, une égyptienne, et elle prie Abraham de féconder Agar, de lui engendrer un enfant, et ensuite cet enfant sera la propriété de Sarah. C'était une coutume sémite assez fréquente, qui existe encore dans certaines populations, en Orient, en Afrique. Mais pratiquement, Sarah n'a pas compté sur Dieu. Sarah a péché, parce que Dieu avait promis un enfant, elle n'avait pas à prendre cette méthode totalement humaine et traditionnelle. L'enfant qui va naître sera, bien sûr, Ismaël, l'ancêtre des Arabes. Et lorsque la jeune femme Agar va voir qu'elle est enceinte, elle va mépriser, se moquer de la vieille femme, Sarah, la stérile. Sarah, la stérile, sera fâchée et va demander à Abraham d'envoyer cette jeune femme dans le désert pour y périr. Mais c'est Dieu qui va renvoyer Agar, qui est enceinte, vers Sarah et vers Abraham. On voit vraiment que les passions humaines détériorent encore aujourd'hui, puisque Ismaël, descendant de Agar, Isaac, descendant de Sarah, sont parents et, en plupart des cas, ennemis l'un de l'autre. Les relations sexuelles, hors mariage, hors du contexte de Genèse, tel que Dieu l'a voulu, engendre toujours des tribulations, des angoisses. Angoisses et tribulations sur l'âme du pécheur, dit Paul dans Romains, chapitre 2. Regardons dans Genèse, chapitre 20, versets 1 à 17. Abraham est dans la région sud de l'Israël contemporain, l'Israël actuel, au sud de la bande de Gaza, au nord du désert du Negev, la région de Guérar. Un roi, philistin Abedla, avec son clan, il s'agit d'Abimélec. Et Abraham, qui souffre de la faim, vient s'installer dans cette région et recommence ce qu'il a fait en Égypte et demande à Sarah de se présenter comme la sœur et non pas comme l'épouse. Guérar, ce roi Abimélec de Guérar va avoir des problèmes. Tout son peuple va devenir stérile, plus d'enfants. Vous savez qu'un peuple sans enfants est un peuple qui disparaît, un peuple qui est vaincu par les autres, qui n'a aucune chance de survivre. Donc, les enfants étaient donc la garantie de survie du peuple et la garantie du pouvoir également. Donc Abimélec se rend compte que tout son peuple est devenu stérile parce qu'il possédait la femme d'Abraham, le prophète. Et donc, il va avoir une explication au chapitre 20 avec Abraham et lui faire le reproche. Pourquoi as-tu caché que c'était ta femme ? Abraham devra de nouveau être confondu et reconnaître qu'il avait fait ça pour sa propre sécurité et son propre avantage. Que faut-il retirer de ces événements ? C'est que la vie du couple est toujours mise en péril par les désirs de sécurité, les peurs, les convoitises, que la fidélité est quasiment impossible depuis que Adam et Ève ont péché. Il faut donc une nouvelle loi dans le cœur de l'homme, c'est la loi de Christ, le don du Saint-Esprit, pour rester fidèle, pour s'aimer, au-delà des intérêts, au-delà des difficultés. La Bible nous montre bien que l'homme n'arrive pas à faire le bien qu'il voudrait faire et fait le mal qu'il ne voudrait pas faire, comme disait Paul en Romains chapitre 7. Que dire de toutes les autres postérités d'Abraham ? Parce que Abraham a eu encore des enfants et différentes tribus sont nées de ses enfants et il a dû les expédier vers l'Orient. Vers l'Orient pour que ne soient pas en combat, en procédure continuelle, en querelle avec Isaac. Nous voyons donc la polygamie, nous voyons que la multiplicité des femmes procure une multiplicité des enfants et une multiplicité des conflits à long terme. Allons voir un peu plus loin dans Genèse. Il s'agit de Ésaü. Ésaü est le fils, tout comme Jacob, de Isaac. Et Ésaü n'a pas de respect pour les principes que Dieu a donnés à la famille d'Abraham. Chapitre 26, verset 34, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri le Héthien, donc Hittite. Une race où il y avait la sorcellerie, des sacrifices humains. Basmat, fille d'Élon, le Héthien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Et bien sûr, plus loin, il mariera Ésaü, mariera encore des enfants de Jordanie, de Édom, et il continuera aussi à transgresser les principes que son papa et sa maman lui avaient donnés. Pourquoi l'homme est-il opposé à ce point aux bons principes qui apportent la paix, qui apportent la tranquillité? C'est parce que le péché est une opposition, une force d'opposition qui dépasse l'entendement de l'homme et qui s'exprime par les convoitises des corps, les convoitises sexuelles, notamment les convoitises matérielles aussi. Lorsque Jacob quitte son frère Ésaü, a reçu la bénédiction de son papa, il part dans le nord de l'Irak pour chercher une femme. Et il a, bien sûr, trouvé la femme de son cœur, Rachel. Et à partir du chapitre 35, on voit que Jacob se rend à Padan Aram, dans le nord de la Syrie, et pour trouver une femme. À cause de la ruse et de l'intérêt, la mercantilité de Laban, le papa de Rachel, Jacob va se retrouver avec quatre femmes. Il va devoir travailler d'arrache-pied et être au service de Laban. Nous voyons donc Laban, qui pourtant avait été enseigné à respecter et honorer le même Dieu qu'Abraham, Laban est manichéen et opportuniste et entraîne un petit neveu dans le péché. Ce péché, bien sûr, va faire souffrir Jacob toute sa vie, puisque plusieurs des fils seront même des meurtriers ou des incestes. Et il est bon de lire tout ce texte pour se rendre compte que Laban et cette usurpation du mariage par opportunisme, par intérêt de Laban, cette manipulation de Jacob a amené énormément de détriments sur toute la famille de Jacob. Que dire ? Aujourd'hui encore, beaucoup de mariages se font dans le même état d'esprit, sont arrangés et n'apportent pas la paix. Et on comprend qu'après, la haine apparaisse, la division, la querelle. Toutefois, une figure tout à fait exceptionnelle se dégage de tous ces récits, c'est celle de Joseph. Si nous regardons dans Genèse, chapitre 37, il y a un fils de Jacob qui, par ses rêves, par ses prémonitions données par Dieu, et par sa naïveté, va exciter la jalousie de ses frères. Les frères vont être jaloux de lui, vont le vendre comme esclave aux Ismaélites, donc à des cousins, des descendants d'Ismaël. Chapitre 37, verset 25, « Ils s'assirent ensuite pour manger, ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venue de Galate. » Et donc ces gens vont acheter Joseph. Et au verset 36, « Ces gens vont le vendre en Égypte, les Madianites. » Donc c'est la même chose, Madian, c'est une région arabe. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Donc nous voyons que l'esclavage, c'est l'accaparement de la personne. C'est le refus de ça, de respecter la personne, c'est le refus de sa liberté. Joseph va être évidemment fidèle à Dieu en toutes circonstances. Il va se retrouver chez un maître, un païen, et ce maître un jour va être absent, et l'épouse va vouloir s'accaparer ce jeune homme et avoir des relations sexuelles avec lui, et il va refuser. Genèse chapitre 39, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit : couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître : voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre moi, entre mes mains, tout ce qui lui appartient, etc. Mais Joseph a le sens du respect de son maître et de la pureté, et il ne va rien faire dans le sens que propose cette femme. Combien d'hommes osent refuser à une femme qui leur offre des occasions de débauche? Et combien de femmes se refusent à des hommes qui leur proposent des occasions de débauche, de dérèglement? Peu de gens ont le courage de tenir tête au péché, n'est-ce pas? Et aux propositions si sympathiques qu'ils reçoivent. Et pourtant, Joseph va être un phénomène, il va être un homme fidèle à des principes bibliques. Il ne va pas se souiller dans le péché. Dans le chapitre 39, versets 7 à 10, on voit donc que cette femme va devenir extrêmement agressive, va prendre le vêtement que portait Joseph, et il va trouver comme prétexte qu'il a abusé d'elle. Elle va donc le calomnier et Joseph va aller en prison. Ainsi, Joseph va se retrouver en prison et connaîtra des hommes qui sont au service de Pharaon, et il va pouvoir leur annoncer des choses qui vont se réaliser. Et par ce fait, un jour, Joseph sera appelé à la cour de Pharaon pour lui rendre service, pour lui expliquer un double cauchemar terrible. Et c'est Joseph qui va devenir le premier ministre pour veiller à la prospérité de l'Égypte. Mais Joseph ne va pas profiter de sa position pour s'accaparer des femmes. On voit que Joseph n'a pas du tout la même personnalité, par exemple, que Salomon. La sagesse est en lui. La fidélité à Dieu et aux principes de Dieu est en Joseph. Alors que Salomon, beaucoup plus tard, ne va pas respecter ce que Dieu lui a demandé. Il va avoir plus de 1000 femmes. Il va construire des temples aux divinités de toutes les femmes. À partir de ces deux exemples, je voudrais dire que la conscience est quand même le lieu même de la décision. C'est là qu'on adore Dieu, c'est là qu'on respecte la vie sexuelle et la vie affective. C'est là que, de cette vie sexuelle et affective, on fait un tremplin pour aimer encore plus Dieu et pour fonder une famille, ou on fait un tremplin pour bafouer toutes les valeurs et utiliser le corps des autres et rompre avec Dieu encore plus. Prenons le cas de Moïse. Dans Exode, Exode chapitre 2, verset 21. Dans Exode, chapitre 2, verset 21. Jéthro, qui est propriétaire du grand troupeau et qui a des filles, n'a pas de garçon, et un homme, qui est Moïse bien sûr, un homme en fuite, parce qu'il risque d'être tué par Pharaon. Jéthro s'intéresse à cet homme qui a rendu service à ses filles, qui les a protégées des brigands, et il va donner à cet homme, à Moïse, une femme. Verset 21, Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Et bien sûr, cette femme va rester longtemps avec Moïse, mais un jour, Moïse va la répudier. Pourquoi va-t-il la répudier? L'a-t-il vraiment aimée? Ou était-ce simplement parce que Moïse était en péril, était sans patrie, avait besoin d'un toit, avait besoin de sécurité affective, avait besoin de la protection de Jéthro? Est-ce qu'il y a eu opportunisme de la part de Moïse, ou inconscience? Pourquoi en est-il arrivé à répudier cette femme? Nous n'avons pas les questions, mais nous pouvons nous imaginer des centaines de milliers d'hommes qui viennent d'Irak, de Syrie, d'Afrique, d'un tas d'autres pays, et qui viennent en Europe. Vont-ils marier des Françaises, des Belges, des Allemandes, par amour, en ayant bien réfléchi, ou plutôt parce que la sécurité, l'avantage matériel, l'avantage physique, affectif est là? Et vont-ils rester, même si tous les motifs pour s'unir avec ces femmes ne sont pas aussi nobles qu'on le voudrait, vont-ils rester fidèles? Ou vont-ils faire comme Moïse, changer d'avis, changer de conjoint? De cet événement, j'en retire une question, c'est que Dieu n'a pas demandé d'être opportuniste. Et Dieu n'a pas demandé à l'homme de courir après les femmes. Nous voyons bien que dans Genèse, c'est Dieu qui amena la femme vers l'homme. L'homme, par ses impulsions, par son côté pragmatique, il risque très fort de considérer une femme pour les avantages qu'elle offre. Et alors que Dieu a plutôt poussé la femme à aller vers l'homme. Un homme qui est patient et qui sait attendre que Dieu lui envoie une femme, qu'il l'aime vraiment, et qui sait remettre tout à Dieu, est certainement un homme plus heureux et probablement fidèle par la suite. Dans Exode chapitre 4, verset 25, Séphora prit une pierre aiguë, coupa la prépuce de son fils, se jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». L'Éternel le laissa, c'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Donc Moïse n'avait pas circoncis ses enfants, il n'était peut-être pas lui-même circoncis, il avait vécu à la cour d'Égypte, et c'est Séphora qui a reçu de son père Jéthro et en ligne droite de Abraham le principe de la circoncision, de l'alliance avec Dieu. Et donc elle rappelle à Moïse un des grands principes d'obéir à ce que Dieu a demandé à Abraham et à sa postérité. C'est Séphora qui va faire cette circoncision, ce qui semble un peu anormal tout de même. Ça aurait pu être Jéthro qui était grand prêtre de l'Éternel ou Moïse. Voilà que Séphora prend l'initiative. Est-ce que Moïse a refusé? Est-ce que Moïse s'en fichait? Ne comprenait pas le sens de la circoncision? Toujours est-il qu'il y a quelque chose d'anormal, c'est que Séphora doit faire quelque chose qui en principe doit être fait par le mari. On se retrouve un peu dans la même position qu'Adam et Ève. Pourquoi Ève a-t-elle pu discuter avec Satan? Et pourquoi Adam a laissé faire? Pourquoi Adam a-t-il été passif? Il y a quelque chose qui me semble fort important, c'est que l'homme ne doit pas démissionner de ses responsabilités. Il doit avoir une vision claire de ce qu'il doit faire pour sa famille. Et quand la femme a une vision claire de ce que doit être la famille et que le mari ne l'a pas, de gros problèmes s'annoncent. L'homme reproche ensuite à la femme beaucoup de choses, parce qu'elle semble avoir usurpé le pouvoir, l'intelligence. Mais est-ce que c'était la femme qui était fautive, ou l'homme qui était démissionnaire et qui accuse à tort? On se retrouve un petit peu comme au premier jour après la chute, quand Adam a accusé Ève. Nous allons arrêter avec tous ces récits qui sont menés un petit peu trop vite. J'aurais aimé commenter de façon plus détaillée tout cela, mais nous allons aller voir des règlements qui furent promulgués par Moïse plus tard à propos des souillures, des dérèglements. Nous allons dans le livre du Lévitique. Dans le livre du Lévitique, Moïse a dû imposer des règles, tellement un nombre important d'abus se commettaient dans le peuple, dans le désert. Sur 43 ans d'existence en commun, ce peuple va tomber dans quasiment tous les péchés qui sont cités dans Lévitique. Donc dans Lévitique, si nous prenons le chapitre 18, verset 5, « Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles, je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. » Donc nous voyons déjà que la sexualité doit être propre, que le comportement avec les autres femmes, même proche, familière, doit être propre, doit être rigoureusement vertueux. Verset 6, « Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. » Donc, je suis là, je suis présent, je suis vivant, je vois tout, je sais tout. Tenez compte de ma présence et de ma volonté. « Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. » Verset 8, « Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. » Verset 9, « Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. » Verset 10, « Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, c'est ta nudité. » Donc nous voyons bien que la promiscuité dont la famille est interdite. L'impudicité. Mais dans la Bible, c'est une abomination, une iniquité. Verset 12, tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Verset 14, tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Verset 15, tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Combien de cas où j'ai connu, après le mariage, le fils qui retournait chez sa mère, pendant, au milieu de la nuit, pour aller coucher avec elle. Combien de cas où j'ai vu le papa se rendre chez son fils, bien sûr, durant son absence, pour coucher avec sa belle-fille. Ce sont des horreurs qui existent de manière réelle, régulière. Verset 17, tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir la nudité. Ce sont tes proches parents, c'est un crime. De toute manière, ces choses qui sont mises dans le livre du Lévitique sont des affaires courantes, qui remplissent les salles d'audience de nos tribunaux, et les journaux et les films. Tout le chapitre 18 est à lire. Verset 21, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, donc des sacrifices humains à des démons. Verset 22, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Il s'agit de la sodomie. Verset 23, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. Et pourtant, ça existe. Donc, le chapitre 18 est donc un chapitre extrêmement important. Mais on trouve un parallèle à ce chapitre, bien évidemment, un peu plus loin, au chapitre 20. Et tous ces péchés-là sont, pour Moïse, sanctionnés par la lapidation. Dans le chapitre 20. Avec Jésus, bien sûr, aucun des péchés n'est sanctionné par la lapidation. Il est simplement sanctionné par la prière des chrétiens, par la bénédiction, par l'intercession. Parce que pour Christ et pour les véritables chrétiens, la bonté de Dieu, sa puissance, son autorité sont capables de détourner des hommes et des femmes de leurs iniquités, de leurs abominations. Et nous n'avons pas le droit de condamner et de tuer par des jugements toutes ces personnes. Peut-être qu'il y a les deux tiers de l'humanité qui devraient disparaître alors. Et nous comprenons que le djihadisme et toutes ces règles légalistes des wahhabistes, des frères musulmans, sont extrêmement dangereuses. Comprenons que l'inquisition au Moyen-Âge fut très dangereuse. Sous prétexte de sauver les hommes, on brûlait les corps. Et Dieu n'a pas demandé de telle violence sur les pécheurs. Il a demandé la puissance de l'intercession et l'authenticité de la foi, de la prière pour les pécheurs. Donc, nous allons arrêter là aujourd'hui avec cet exposé. Il est bien sûr difficile de conduire aujourd'hui sa vie au niveau de la sexualité, hors du mariage ou dans le mariage, parce que le problème de la sexualité, c'est le péché. Si aujourd'hui, la plus grande escroquerie en général se pratique dans le domaine affectif et sexuel et dans le mariage, elle n'est pas due à une dégénérescence contemporaine, elle est simplement due au péché d'Adam et Ève, qui entraîne l'homme à sa perte et à bafouer les choses les plus précieuses que Dieu a données. Je vais terminer par des questions. L'homme et la femme existent-ils pour s'accoupler et pour jouir ? ce qui semble être un critère contemporain extrêmement important. L'homme et la femme existent-ils pour acquérir une sécurité physique, organique, matérielle, pour avoir des maisons, des territoires, planter des arbres, se marier en vue d'une prospérité matérielle, ce que Jésus dénonce dans Matthieu 16 et Luc, lorsque le Fils de l'homme reviendra, les gens se mariaient, buvaient, plantaient des arbres, etc. Donc le détournement du mariage pour développer le patrimoine et le pouvoir clanique. L'homme et la femme existent-ils pour s'affirmer comme normaux et capables, un critère de conformité, de reconnaissance de soi? L'homme et la femme existent-ils pour fuir l'angoisse d'être seul, pour fuir l'angoisse d'être, de ne pas avoir de vis-à-vis, un secours lorsqu'on sera vieux, on sera malade, fuir l'angoisse devant les imprévus, les guerres, etc., la maladie? Le mariage existe-t-il pour trouver une force complémentaire, des bras et des mains pour travailler? L'homme et la femme existent-ils simplement parce que nous avons un sentiment de manque, d'échec, lorsque nous sommes seuls? Et puis, lorsque ce sentiment de manque et d'échec se répète, l'homme et la femme ont-ils le droit de se séparer pour refaire l'expérience à saturation, en espérant que ce sentiment de manque et d'échec disparaisse un jour, en changeant plusieurs fois de conjoint? Il semble attrayant de pouvoir choisir un conjoint et de changer régulièrement. Il semble attrayant d'avoir droit à l'échec et à l'erreur. Il semble attrayant d'avoir un sentiment d'élection à répétition. Et d'être quelqu'un parce qu'on sait choisir quelqu'un, ou parce qu'on est choisi. Est-ce que ce n'est pas un profond narcissisme, un profond égocentrisme derrière tout cela? Est-ce que l'homme et la femme existent pour réagir contre la disette, la vieillesse? Dans de nombreuses sociétés humaines, il n'y a pas de sécurité sociale, ou la sécurité sociale tend à disparaître dans nos pays? Est-ce que c'est un investissement pour former à long terme un nom, un clan, une race, une culture? Est-ce que l'homme et la femme existent pour accomplir un devoir? S'unir est un devoir, une contrainte, dès la naissance ou dès l'âge de 8 ans ou de 12 ans dans certaines sociétés? Est-ce que l'homme et la femme s'unissent parce que c'est le fruit de règlements rigides, légalistes, indiscutables, dans lesquels il n'y a ni amour ni liberté personnelle? Est-ce que la sexualité, tout compte fait, serait liée et dominée par l'image d'un dieu punitif, d'un dieu austère, sans amour, ne respectant aucune liberté? Voilà tant de questions pour lesquelles Jésus lui a donné de bonnes réponses dans l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint, nous ne sommes rien sans l'amour. 1 Corinthiens 13. Jésus a donné la réponse. Sans sa parole et sans l'Esprit Saint, il n'y a aucune sainteté dans le couple. L'homme et la femme sont appelés à la sainteté, à l'amour et à une réponse libre. Viens et suis-moi. Amen.